Gaston d'Orléans était sorti de scène à la fin de la fronde, en vrai personnage de comédie. Sa femme disait, moitié pleurant, moitié riant, qu'il lui avait semblé entendre Trivelin, célèbre acteur comique qui jouait ce que nous appelons aujourd'hui les rois d'opérette. La rentrée de la cour à Paris avait été annoncée au Luxembourg par une lettre de Louis XIV. Cette nouvelle avait mis monsieur hors des gonds et il avait fait le rodomont avec tant de vérité que madame s'y était laissée prendre une fois de plus.
« Il était dans un emportement inconcevable, »
raconte Ress.
« Et l'on eût dit de la manière dont il parlait qu'il était à cheval, armé de toutes pièces et prêt à couvrir de sang et de carnage les plaines de Saint-Denis et de Grenelle. »
Madame était épouvantée. Elle s'efforçait de l'apaiser, mais plus elle suppliait, plus il menaçait de tout pourfendre. Son ardeur martiale s'évanouit en recevant un ordre d'exil, 21 octobre 1652. C'était pendant que le roi faisait son entrée à Paris et l'on entendait de tous côtés des coups de feu. Le peuple, selon l'usage du temps, tirait en l'air en signe de réjouissance. Rien ne put ôter de la tête de monsieur, tout vieux parisien qu'il fût, que ses décharges provenaient des troupes du roi et qu'on venait l'assiéger dans son palais. La peur le prit. Il allait et venait avec agitation, envoyé à la découverte, ouvrait les fenêtres pour tendre l'oreille et presser son départ qui eut lieu le lendemain, avant l'aube. Il ne respira que dans la vallée de Chevreuse. Personne ne songeait à le retenir. Bien au contraire, Mazarin, qui gouvernait la France du fond de son exil, était résolu à en finir avec lui.
« Que son Altesse royale, écrivait-il, s'en aille dans son apanage. »
Son Altesse royale s'étant arrêté à son château de Limours, Michel le Tellier, secrétaire d'État à la guerre, courut l'y trouver. Et ce fut la répétition des scènes d'autrefois, avec Richelieu. Pour ses adieux à la vie publique, Gaston d'Orléans dénonça Ress, comme jadis Chalais, Montmorency, 5 mars, et tant d'autres. Lorsqu'il eut dit tout ce qu'on voulait, préparant ainsi l'arrestation du cardinal, qui allait étonner Mademoiselle à Saint-Fargeau, le roi
lui permit de se retirer à Blois.
Monsieur obéit de mauvaise grâce. Il sentait qu'on l'enterrait tout vif. Ce n'était pas la première fois qu'il habitait Blois malgré lui. Les séjours forcés qu'il avait faits sous Louis XIII n'avaient pas été désagréables, contrainte à part parce qu'il n'était pas définitif et que lui-même, étant jeune et gai, s'arrangeait très bien de vivre un temps en petit roi d'Yvetot. Il avait reconstruit à son goût, 1635-1638, une partie du château d'après les plans de François Mansart,
le plus habile architecte de son temps,
et l'oncle de celui qui fit Versailles. Il avait Chambord pour maison de campagne, un pays plantureux pour garde-manger, des forêts giboyeuses pour terrain de chasse et de bonnes gens pour sujets qui avaient gardé la foi monarchique et se tenaient pour très honorés quand le frère du roi daignait cajoler leurs femmes et leurs filles. Autant Saint-Fargeau était un lieu âpre et revêche, autant Blois, avec son ciel plein de caresses, se montrait le digne avant-courrier de la douceur angevine.
Côteaux riants y sont des deux côtés,
Coteau, non pas si voisin de la nue qu'en Limousin, mais coteaux enchantés. Belle maison, beau parc et bien planté. Plais verdoyants dont ce pays abonde. Vignes et bois, tant de diversité qu'on croit d'abord être en un autre monde.
C'est un touriste du temps qui parle ainsi. C'est La Fontaine qui visita Blois en 1663 et le décrivit à sa femme dans une lettre moitié prose et moitié vers. La ville l'avait charmé par sa jolie situation et l'air avenant de ses habitants.
La façon de vivre y est fort polie, soit que cela ait été ainsi de tout temps et que le climat et la beauté du pays y contribuent, soit que le séjour de monsieur ait amené cette politesse, ou le nombre des jolies femmes.
En homme de goût, il avait admiré au château la partie de François Ier, sans régularité et sans ordre. En bon vivant, il avait apprécié l'excellent déjeuner de son auberge. En bon voyageur, il avait assez bavardé avec les gens de l'endroit pour savoir combien ils avaient été heureux sous le règne doux et réparateur de Gaston. Les traces de guerre civile avaient été vite effacées dans ces pays fertiles et populeux. La Fontaine reprit gaiement sa route vers Amboise. Il voyait le sourire de la France et il était fait pour en jouir. Au temps où monsieur en jouissait aussi, son grand plaisir était de parcourir son apanage en prince fainéant, descendant ici de carrosse pour chasser un cerf, arrêtant là son bateau pour dîner sur l'herbe, s'invitant dans les maisons nobles ou bourgeoises, où il savait trouver de jolies personnes. Il s'embarqua un jour sur l'un de ces bateaux couverts que nous montrent les tableaux du XVIIe siècle. On les appelait des galiotes, et ils servaient à voyager sur les rivières et les canaux. Monsieur, rapporte un témoin, avait commandé un second bateau, où il fit mettre force provisions et ses officiers de suite, tant pour la cuisine que la garde-robe. Les chevaux suivaient sur la levée. Il nous mena 10 ou 12 avec lui, et lorsque nous trouvions quelque île belle et agréable, il y descendait et faisait servir le dîner et le souper sous les plus beaux ombrages. Certes, nous pouvions dire que tout soin était banni de notre société, et l'on y vivait sans contrainte, que l'on y jouait, buvait, mangeait, dormait à son choix, que les heures n'obligeaient à rien. Enfin, le maître s'était mis au rang de ses serviteurs, quoique fils et frère de grands rois. On descendit ainsi jusqu'en Bretagne. Le temps était admirable. Les châteaux de la Loire défilaient devant la galiote. Ces gens-là voyageaient en poète. Sitôt que Richelieu le permettait, Gaston accourait à Paris se replonger dans la politique, qui ne signifiait jamais pour lui que lâcheté et trahison, mais il ne l'en aimait pas moins. Elle était son vice chéri, dont il n'aurait voulu pour rien au monde se corriger, car la politique lui était une source de sensations rares. Tenir la vie d'un ami dans ses mains, en sachant d'avance qu'on la livrera au bourreau et qu'on en pleurera passionnément, savoir aussi que votre chagrin s'envolera et que l'on reprendra joyeusement une vie dans ses mains, ce sont évidemment de ces choses qui rendent les journées très intéressantes, lorsque ni la conscience ni le cœur n'en sont mis à la gêne. Elles avaient rempli la carrière publique de Gaston, et quand il se retrouva dans son château de Blois, près de 20 ans après le voyage radieux sur la Loire, privé à jamais, selon toute vraisemblance, de fortes émotions, dont l'hôtelier lui avait fait goûter une dernière fois la saveur dans l'entrevue de Limour. L'existence lui parut intolérablement fade et vide. Le bien qu'il pouvait faire et qu'il fit en effet ne l'intéressait pas. Le mal qu'il ne pouvait plus faire lui manquait affreusement. Personne, même parmi ses ennemis, ne l'a cependant accusé d'être méchant. Il faudrait être médecin pour analyser ses natures malsaines. Monsieur avait commencé par lutter contre l'ennui. Il s'était formé une belle bibliothèque et avait attiré des gens de lettres à sa cour, dans l'espoir de reprendre goût à la littérature qu'il avait aimée dans sa jeunesse. Il s'était souvenu de ses collections d'objets d'art et de curiosité les avait continuées et on avait commencé de nouvelles. Rien n'avait pu vaincre son indifférence à l'exception d'un jardin des plantes dont il s'occupait avec plaisir. Tout le reste avait semblé puéril infiniment à un homme qui avait contribué si longtemps à faire l'histoire de son pays. Il lui était devenu impossible d'attacher de l'importance aux petits vers de ses beaux esprits et de se passionner pour des oiseaux empaillés ou même pour une médaille antique. De guerre lasse, il se jeta dans la dévotion. La Gazette de Lorée en fit part officiellement à la France et tint le pays au courant des progrès de Gaston dans la voie de la piété. Le premier gage qu'il donna de sa conversion fut de corriger d'un défaut qu'il lui avait attiré jadis de Richelieu d'inutiles remontrances. Ce prince d'esprit si raffiné jurait et sacrait abominablement. L'habitude s'en était communiquée à son entourage. Nous savons que mademoiselle elle-même avait le verbe vif dans les moments d'irritation. En décembre 1652, jurons et blasphèmes furent sévèrement interdits à la cour de Blois et monsieur y tint la main. Aujourd'hui, rapportait la Gazette, aucun de ceux qui sont à lui, quelque malheur qui lui survienne, n'oserait jurer la mordienne. On apprit ensuite que ses beaux commencements ne s'étaient pas démentis et que monsieur était maintenant moins souvent chez lui qu'à l'église. Les Parisiens et la cour de France eurent beaucoup de peine à admettre qu'un esprit aussi libre et aussi sceptique fût venu à récipiscence.
« Sa piété serait entièrement estimable, »
écrivait Madame de Motteville.
« Si sa paresse n'avait point en quelque petite part à sa vertu. »
Quand cela serait, la dévotion de Gaston n'en fut pas moins sincère. Il réforma sa vie et finit par trouver, au pied des autels, à défaut de contentement, un peu de patience et de résignation. Toutefois, ce fut long à venir. Les commencements de l'exil définitif furent remplis d'agitations misérables et de plaintes. Sans dignité, madame était venue le rejoindre avec leur petit troupeau de filles. Cette princesse ne mit point d'animation dans le château. Uniquement occupée de sa santé, elle vivait enfermée, sans autre distraction que de manger du matin au soir.
« Pour remédier à ces vapeurs, »
racontait la grande mademoiselle,
« ce qui les augmentait, elle ne donnait ordre à rien et ne voyait ses filles qu'un demi-quart d'heure le soir, mais autant le matin, et ne leur disait rien. Sinon,
« tenez-vous droite !» « Levez la tête !»
Voilà toute l'instruction qu'elle leur donnait. Elle ne les voyait pas le reste de la journée et ne s'informait pas de ce qu'elle faisait.
La gouvernante des petites princesses se débarrassait à son tour de ses élèves qui restaient abandonnés aux inférieurs. Leur père ne trouvait rien à redire à ses éducations. La reine Anne d'Autriche n'avait pas élevé ses fils très différemment. Monsieur était d'ailleurs un époux soumis. Il savait sa femme de bons conseils et beaucoup plus intelligente que ne l'annonçaient ses gros yeux effarés.
« C'est,
disait Talman, une pauvre idiote et qui pourtant a de l'esprit. » Madame de Motteville la jugeait exactement de même. Madame n'était pas aimée parce qu'elle n'était pas aimable, mais personne ne s'étonnait de son ascendant sur monsieur. Leur cour était fort déserte. Au rebours de ce qui s'était produit pour mademoiselle, leur disgrâce avait été le signal d'un abandon général. Dans les premières années, Gaston se donna la peine de fêter ses rares visiteurs. Il redevenait, pour quelques heures, le causeur incomparable, qui savait mille belles choses et trouvait des tours charmants pour les dire. Chapelle et Bachaumont furent reçus au château, à leur passage à Blois, en 1656, et remportèrent le meilleur souvenir des dîners du duc d'Orléans.
Là, d'une obligeante manière, d'un visage ouvert et riant, il nous fit bonne et grande chère, nous donnant à son ordinaire tout ce que Blois a de friand.
Son couvert était le plus propre du monde. Il ne souffrait pas sur la nappe une seule miette de pain. Des verres bien rincés de toutes sortes de figures brillaient sans nombre sur son buffet, et la glace était tout autour en abondance. Sa salle était préparée pour le ballet du soir. Toutes les belles de la ville priaient, tous les violons de la province rassemblés. Encore un peu, et l'effort de recevoir devint à charge à monsieur. Il n'aimait plus que son repos. Et il aurait passé le reste de ses jours à dormir les yeux ouverts sans sa fille de Saint-Fargeau. La terrible mademoiselle dont il s'était séparé à Paris sur une explication pénible et qu'il ne lui avait laissé depuis aucune tranquillité. Elle avait commencé par venir le voir, malgré lui, sans tenir compte de ses défenses répétées. La grande mademoiselle, ouvertement allié à Condé, était un hôte compromettant pour un prince obsédé à cette époque du désir de reprendre sa place auprès du trône. Elle avait beau dire qu'elle avait rappelé ses troupes de l'armée de monsieur le prince, son père savait fort bien qu'elle se moquait de lui, il l'a reçue froidement le soir de sa première arrivée. Décembre 1652.
Il vint à la porte de sa chambre au devant de moi et me dit
« Je n'oserai sortir parce que j'ai la joue enflée. »
Un instant après, monsieur entendit de loin une voix joyeuse. C'était mademoiselle qui contait ses aventures pendant la fuite à Saint-Fargeau. Monsieur n'y put tenir. Il s'approcha, la fit recommencer et rit avec les autres. La glace était rompue. Cependant, le quatrième jour, il dit à Préfontaine, en le promenant dans le parc de Chambord,
« J'aime fort ma fille, mais j'ai quelques considérations. Je serais bien aise qu'elle ne demeure guère ici. »
Mademoiselle repartit le lendemain. Le mois suivant, janvier 1653, monsieur et madame firent un séjour à Orléans. Malgré de nouvelles défenses, mademoiselle vint passer une journée avec eux.
« Je ne me tiens point pour éconduite, dit-elle. Je partis de Saint-Fargeau et je m'en allai à Orléans. »
Cette obstination à s'imposer chez des gens qu'elle voyait sans aucun plaisir, est difficile à expliquer. Monsieur et madame, qui en avaient peur, prirent sur eux
de lui faire bon visage. Et son père lui dit, en la quittant, « Les affaires de votre compte de tutelle n'ont point encore été terminées. Je veux finir cette affaire avec vous. Ordonnez-le à vos gens. » Mademoiselle ne se le fit pas dire deux fois. « J'en écrivis à Paris, puis à Blois. » Il se fit là-dessus fortes écritures qui commençaient à s'aigrir un peu. Monsieur avait ses projets. C'était une occasion unique de procurer un peu de bien à ses filles du second lit. Ces jeunes princesses n'avaient rien à attendre de leur mère et peu de choses de leur père, dont les pensions et l'apanage étaient destinés à disparaître avec lui. Madame était préoccupée de cette situation depuis longtemps, rapporte un de leurs familiers.
Madame habilement sollicitait Monseigneur de songer à ses affaires et de mettre du bien solide à couvert pour ses enfants, disant qu'il ne le possédait rien au monde que de réversible à la couronne, en cas qu'il n'eût point d'enfants mâles et que ses filles demeuraient à la merci de la cour et des ministres pour leur subsistance.
Jusqu'à leur disgrâce, Madame n'avait rien obtenu. Son époux se ruinait au jeu. On l'avait vu perdre un demi-million contre le fameux chevalier de Gramont. Il ne se rangea qu'à Blois, trop tard pour faire des économies. Ses dettes l'écrasaient et ses pensions ne lui étaient plus payées que très irrégulièrement. L'argent de Mademoiselle parut tout indiqué pour remettre la maison d'Orléans à flot, et ses comptes de tutelle furent l'eau trouble où l'on se proposa de pêcher. Monsieur ne soupçonnait pas à quel point l'exil avait changé sa fille, le fidèle Préfontaine aidant.